Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivante Église en ce jour. Vous serez vraiment grand. Hymne à l'amour, découvreur de trésors, c'est le titre d'un ouvrage. Je reçois son auteur dans un instant. Bonjour Pierre Guilbeault.
Bonjour.
Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour, découvreur de trésors. C'est le titre de cet ouvrage dont vous êtes l'auteur. Ce livre est paru aux éditions Le Lys Bleu et on peut donc le commander. On peut déjà le découvrir et vous découvrir. C'est ce que nous allons essayer de tenter comme opération. Un beau défi pour ce jour dans ce Vivante Église. Quelques mots de présentation. Vous habitez à Cholet. Vous êtes originaire de Nantes. Vous avez essentiellement été dans votre carrière exercé comme éducateur auprès de personnes handicapées visuelles, jeunes et adultes, mais aussi en tant qu'instructeur en locomotion, autonomie des personnes dans leurs déplacements. Vous avez été engagé dans la vie locale de votre ville de Cholet. Vous avez donc essayé d'enrichir la vie de tous ces enfants que vous avez accompagnés dans votre métier en leur proposant différentes activités, mais des activités avec du sens, un vrai sens. Vous avez aussi créé une chorale à l'époque, qui était la chorale des petits chanteurs sans Sébastien. Autre chorale aussi, donc très sensible donc au chant. Et à la musique, ça fait partie aussi de vos dons et de vos talents. Vous avez été aussi engagé à l'aumônerie de la polyclinique du parc auprès des familles en deuil. Bref, on pourrait énumérer tous les engagements que vous avez eu jusqu'à ce jour et vous proposer donc un peu de vous exposer. Est-ce qu'on peut parler d'exposition? De vous exposer, de livrer un peu à travers aussi votre beau métier. Moi, j'ai parcouru un peu cet ouvrage. C'est une plume d'un éducateur, mais on découvre aussi les talents de poète, parce que ce livre est parsemé de poèmes, ce livre est parsemé de ces enfants qui sont devenus des hommes et des femmes adultes. Certains ne sont plus de ce monde, d'autres sont de ce monde. Et en introduction, vous m'avez partagé hors antenne pour préparer cette émission plein de choses, hein, plein de beaux trésors. J'ai perdu un amour et j'ai retrouvé un amour et plein d'amour avec les plus faibles parfois, hein, qui semblent parfois ressembler à des petits riens, mais ce sont ces plus faibles et ces petits riens qui vous ont fait découvrir, hein, les beaux trésors de la vie, ces trésors qui sont parfois cachés. Vous me permettez de lire un extrait que vous avez écrit. C'est l'histoire de Lionel. Hein,
oui.
Vous les connaissez bien. Hein. Vous écrivez, Lionel a été le déclic innocent et puissant de mon attachement aux rencontres fidèles à l'accueil de l'OCH de Lourdes. Il a été la clé qui a ouvert mon cœur à l'amour alors que je le croyais brisé, fermé à jamais par un amour humain éteint, etc. etc. Hein, c'est la porte d'entrée de Vivante Église aujourd'hui. Oui. Racontez-nous.
Alors, comme vous l'avez dit, il m'est arrivé quand même une catastrophe dans ma vie et je ne m'y attendais absolument pas. Et donc, la vie de mon couple s'est terminée. Donc, j'étais un peu perdu et j'ai un ami qui est le parrain de ma fille d'ailleurs, Joël, qui était un collègue, qui, depuis quelques années, était bénévole dans une association, l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, à Lourdes, et qui me dit, écoute, ça te ferait du bien de te changer les idées, je te propose de venir passer quelques jours avec moi à l'OCH. Donc je suis venu la première année, je suis resté trois jours, et puis je suis venu tout seul la deuxième année. Parce que j'avais pris goût, je vous dirai tout à l'heure pourquoi.
On veut tout savoir.
Voilà. Et il y a deux personnes qui m'ont accueilli quand je suis descendu du train, donc de la gare jusqu'au sanctuaire. Et j'étais pas bien, quoi, parce que j'étais pas encore bien remis de ce qui m'arrivait, le voyage, tout ça. Mais j'étais heureux de revenir à Lourdes quand même. Et puis, il y a Georgette, une personne extraordinaire, qui n'est plus là maintenant, mais elle aurait plus de 100 ans, donc, mais qui était une grande figure de l'accueil de l'OCH, et qui me dit, est-ce que tu as mangé ? Ben, je dis non. Ben, écoute, j'ai pas grand-chose, mais... je vais voir ce que je peux faire. Et puis, elle est allée dans le frigo, puis elle m'a ramené un morceau de pain un peu rassis, un œuf dur et puis un morceau de saucisson. Et bah, vous voyez, je me rappelle encore de ce repas. J'ai fait des bons repas dans ma vie. Alors, j'ai oublié le menu. Et celui-là, il restera gravé à jamais parce que c'était donné avec amour. Et le mot amour, là, je commençais à le découvrir. Et l'après-midi... Ça a continué avec Lionel, parce qu'on me dit, tiens, bah, tu vas t'occuper de Lionel. Lionel était venu avec sa maman. Et puis, on a passé l'après-midi ensemble. Et j'étais jeune éducateur, plein de savoir. Et moi, j'ai passé l'après-midi à réfléchir à ce que j'allais proposer à Lionel. Et puis, on est allé au bord du Gave. Lionel est allé se frotter les pieds dans les galets. Il aimait beaucoup ça.
Lionel avait quel âge à l'époque?
Lionel avait 13 ans.
Oui.
Voilà.
Quel était son handicap?
Ah oui. Alors, Lionel était, comme on dit maintenant, non-verbal. C'est un enfant qui avait, je pense, qui était étouffé un peu à la naissance. Donc, il avait un retard très, très profond. Il était très, très profondément handicapé. Il avait... une main qui était un peu tordue, il tenait juste un petit avion jaune dans sa main, et puis avec le doigt de l'autre main, il tournait sans cesse l'hélice. Voilà, c'est tout, à peu près tout ce qu'il savait faire, quoi. Et puis, il m'a entraîné pour revenir manger un gâteau, boire un verre d'eau, etc. Puis à la fin de la journée, l'éducateur tout puissant que j'étais a fait le constat que je n'avais rien trouvé à lui proposer. Puis le soir dans ma chambre, j'ai refait le bilan de la journée et puis je me dis, mais on a fait un tas de choses pourtant. Et comme je vous disais, on était au bord du Gave, on a été manger un gâteau, boire un coup. Et puis je dis, mais en fin de compte, c'est Lionel qui est rentré en relation avec moi. Moi, je cherchais avec mes grandes théories à rentrer en relation avec lui, je n'ai pas réussi. Et lui, avec son rien, Lionel, c'était rien, en fait, parce que pas de parole, très peu de contact, même visuel. Même j'avais l'impression, même qu'il ne voyait pas, pour vous dire, vous voyez, la profondeur de son handicap. Et c'est lui qui était rentré en relation avec moi. Et là, ça a changé mon regard. Voilà. À l'image de la Sainte Vierge et de Bernadette, d'ailleurs. Hein. À Lourdes, on dit souvent de changer son regard. Mais... Et là, c'était foudroyant, quoi. Et Lionel, c'est quelqu'un qui a participé à la guérison de mon cœur.
Vous parlez de guérison.
Le
cœur était en miettes, le cœur était brisé.
Complètement en miettes. Et puis là, je me suis dit, mais attends, il y a quand même des gens qui, sans les mots, arrivent à vous toucher au plus profond, ouais. Et Lionel est devenu un ami, un grand ami, mon meilleur ami, je le dis d'ailleurs dans le livre, un ami fidèle. Fidèle parce que de toute façon, il n'était pas perturbé, de toute façon, il ne pouvait pas me tromper.
Voilà. Il ne pouvait pas vous trahir.
Il ne pouvait pas me trahir, voilà, c'est exactement le mot, oui. Voilà.
C'est pour donner le goût aussi aux auditeurs, et moi je vous invite, chers auditeurs, à découvrir un peu l'auteur que je reçois dans ce Vivante Église. C'est une église bien vivante, et vous en faites partie, une église aussi vivante, puisque depuis 38 ans, Pierre Guilbault, vous venez à Lourdes. C'est
oui,
pas rien.
Voilà, oui.
Au service, oui, je vois quand je dis Lourdes, et puis c'est... Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait rester fidèle dans ce bénévolat?
Ce sont les rencontres, vous voyez. Cette année, c'est la 38e année, et je trouve que les grâces tombent, mais alors peut-être que je suis plus réceptif pour les récupérer. Mon entonnoir est peut-être plus efficace. J'expliquais l'autre jour à des séminaristes que les grâces, elles tombent de toute façon. Le Seigneur, il nous les envoie. Alors des fois, elles tombent à côté parce que on n'est pas prêt à les recevoir, quoi.
Si je vous demandais d'évoquer ces 38 années de passage à Lourdes, en quelques mots, qu'est-ce que vous
diriez? C'est la rencontre.
C'est la rencontre.
C'est la rencontre. parce que c'est le mot magie qui vient, mais c'est pas vraiment pas le bon mot, mais la force de l'accueil de l'OCH, c'est justement que la personne qui va rentrer, on ne la connaît pas, ou on la reconnaît parce qu'on l'a déjà rencontrée les années précédentes, mais souvent, et la personne arrive telle qu'elle est. Et on la prend telle qu'elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Et c'est là toute la différence. Et on fait des rencontres d'une richesse, mais on se nourrit.
C'est du vrai.
C'est du vrai. C'est du vrai. Voilà. La personne qui rentre souvent, qui est porteuse d'un handicap, est vraie.
Voilà. C'est des leçons de vie.
Vous racontez une petite anecdote.
Plein d'histoires, plein d'anecdotes. Voilà. Allez-y, vous pensez à laquelle?
Oui, je pense parce que là, on a pris une petite claque tous là, dans l'équipe parce qu'un jour, il y a un monsieur qui arrive, une cinquantaine d'années, avec son assistante, un monsieur qui était à l'Arche, et qui s'appelle Ludovic, et qui rentre dans la permanence et qui nous dit « tracteur, tracteur ». Et il fait tout le tour. Pour rechercher, on a des documentations, on a des... Et puis, toujours, tracteur, tracteur. Alors, son assistante a dit, bah, Ludovic, il est passionné, ses parents sont agriculteurs, il est passionné de tracteur. Puis Martine Diallo, qui est responsable de l'accueil, hein, du service accueil, tout d'un coup dit, mais attends, on va aller chercher sur Internet une image de tracteur. Et donc, Ludovic, il a choisi le tracteur parce qu'il était très, très, très professionnel sur le tracteur. Hein. Voilà. Et puis, peu après, Martine, justement, fait une petite interview parce qu'on aime bien faire garder un souvenir des personnes qui passent. Et il y a une question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? Et on se regarde tous avec un grand sourire, parce que nous, on savait déjà la réponse. Oui. Bah oui, le tracteur. Et puis, bah, lui, il se frotte le front, le menton, il réfléchit. Puis, un petit temps de silence, et puis tout d'un coup, il nous dit « Jésus, Marie, Joseph. » Boum. Voilà, boum, hein, on se donne une claque. Parce que voilà, nous, on était là, il était rigolo avec ses tracteurs.
Ah ouais. Donc vous étiez
loin.
Ouais.
On découvre un homme d'une profondeur. Et voilà.
Ça,
on s'attendait à tout.
C'est des grandes leçons.
C'est des grandes leçons, vous voyez. Et c'est ça quasiment au quotidien. Quoi.
C'est les miracles de Dieu, les miracles de la rencontre.
Voilà. Moi, j'avais écrit un article pour le journal de la Grotte il y a plus de 30 ans. Et j'avais trouvé le titre « Je suis tombé malade de Lourdes, mais je ne tiens pas à guérir ». Alors je dis « Oh là là, le journaliste ne va pas aimer ». Puis en fin de compte, si, il a bien aimé. C'est vrai, voilà.
Alors, dans cet ouvrage, plein d'anecdotes, plein de belles rencontres. On parlera peut-être dans un instant, si vous le voulez bien, de Pascal. Quand la vie bascule avec... parce que vous êtes un poète, Pierre Guilbault, un petit peu. Permettez-moi de lire un court extrait. Ombre et lumière, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Il vit dans le noir, même en plein jour, pour toujours. Un beau matin, dans la clarté, sa vie est partie. Il ne l'a pas voulu, il s'est cru perdu. Il a tout éteint en lui, même son cœur. Ce cœur qui a vu, même la peur. Maintenant, il a peur, tout seul dans le noir, comme avant, le soir, etc. etc. Parlez-nous un peu de Pascal.
Alors, Pascal, c'est un garçon qui est arrivé en cours d'année parce que malheureusement, il venait de faire une chute de vélo.
Il avait 12 ans à l'époque.
12 ans, ouais. Voilà. Et dans la chute, il a fait une hémorragie de fond d'œil. Donc, il a perdu la vue quasi instantanément. Donc il est arrivé un peu comme l'enfant sauvage, hein. Il était perdu, sa vie était finie pour lui, quoi. Donc il est resté longtemps prostré dans sa chambre, on le sortait pour aller manger, mais après il bougeait pas. Puis un jour il a osé sortir, parce qu'on a travaillé, je passe vite parce que c'est un travail très long et de patience pour l'amener tranquillement.
D'apprivoisement,
oui. Ouais. Non pas pour accepter, parce que je pense que c'est des choses qu'on n'accepte jamais, mais au moins pour faire avec, pour vivre avec. Et puis et un jour il décide de sortir. Et on a le pavillon d'hébergement, il y avait une petite cour au milieu et il y avait un petit arbre de rien du tout et il sort. Et nous, il n'y a aucun danger, on le laisse faire. Et il se tape dans l'arbre. Voilà. Il faut le faire. C'était un arbre minuscule, mais il va se taper dans l'arbre. Et là, faut m'envoyer à l'hôpital. Je saigne de partout et tout. Il avait plus du tout il avait rien du tout. Hein. On n'était pas du tout inquiet parce qu'il s'était même pas fait mal. Mais pour lui, voilà quoi. Et, vous voyez, il était plus du tout dans la réalité. Et donc, on a fait un travail comme ça, très de longue haleine. Pour le sortir. De...
Il écrira même un poème.
Oui, parce que...
On passe bien sûr sur l'histoire de Pascal.
Oui, parce qu'il il pensait toujours revivre. Et donc, j'avais pensé à un moment, je dis, je vais lui donner un crayon et il va écrire. Ouais. Et voilà. Et il n'écrit pas n'importe quoi.
Vous voulez lire ce qu'il écrit pour rendre hommage un peu à Pascal, oui. Ce poème est là.
Voilà. Véronique, fleur des bois. Une graine t'a fait pousser dans la nature qui est à toi. Tu épanouis sur les talus des beaux pétales bleus que rarement on a vus. Tu es d'une beauté, toi, fleur sauvage, que je n'ai pas peur d'oublier. Je ne te cueille pas, tu es si jolie. Je ne te cueille pas, car tu es mon rêve joli. Voilà. Et je pense que là, Pascal est en train de parler de sa vue qui est partie et qui commence à penser que c'est un rêve, mais qu'il n'oublie pas.
Vous avez des nouvelles de Pascal?
Non, j'ai pas de nouvelles.
Vous restez en contact avec certains?
Oui, certains, oui, je retrouve. Et depuis quelques années, il y a eu tout un mouvement. Oui, c'est extraordinaire parce que j'ai changé de domicile, je sais pas combien de fois, ils ont réussi à me retrouver quand même.
Ils vont peut-être vous retrouver aussi.
Pascal, non, il a un peu disparu des relations des autres aussi, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a incité à mettre par écrit un peu toutes ces belles rencontres qui sont au départ des rencontres dans, oui, le cadre professionnel en tant qu'éducateur spécialisé, mais au-delà, rencontres qui peuvent devenir parfois aussi signes de grande amitié. Qu'est-ce, ouais, qui vous a mobilisé et décidé à prendre votre plume et vous exposer un petit peu? Vous serez vraiment grand. Hymne à l'amour, découvreur de trésors. C'est que des trésors et c'est que de l'amour dans l'écriture.
Oui. Ben, je l'ai fait avec mon cœur et peut-être quelqu'un m'a aidé un petit peu plus haut. Parce que je ne me sentais pas capable d'écrire. Et il y a 3 ans, j'avais vécu un séjour à Lourdes, à l'OCH, assez fort. Et Martine Diallo, qui est la responsable.
Donc que nous pouvons saluer.
Oui, bien sûr. Ah, oui, je la connais depuis qu'elle a l'âge de 15 ans. Vous voyez, j'ai eu la chance de l'accueillir la première fois.
Et de l'avoir grandir.
Et elle s'en rappelle. Et vous voyez, elle a fait son
Et qu'est-ce qui s'est passé il y a
chemin.
3 ans
Il y a 3 ans, elle me dit, tu nous fais un petit bilan de ton passage, comme on a l'habitude de faire tous les bénévoles. Et donc, je suis rentré chez moi. Et puis, je dis, je vais faire une page ou deux comme... Voilà, comme d'habitude. Et puis là, tout d'un coup, y a eu 10 pages qui sont sorties. Puis en retour, elle me dit, ouais, c'est super, merci beaucoup et tout. Et elle finit, à quand le livre? Donc je lui réponds en disant, tu plaisantes bien sûr. Et elle me répond, non, pas du tout. Puis je dis, je ne suis pas capable d'écrire un livre. Mais dans ma tête, j'avais quelque part envie d'écrire sur justement mes trésors là, de mon travail,
de vos rencontres,
de mes rencontres, et puis aussi de l'OCH. Et comme je le disais, je crois, tout à l'heure, le bénévolat de Lourdes a tellement éclairé ma façon d'être éducateur que je dis, il faut que je fasse un livre avec les deux, quoi.
Oui, d'ailleurs, vous m'avez dit que votre métier a été éclairé par toutes ces rencontres ici à Lourdes.
Complètement. Et donc voilà, j'ai commencé à marquer des noms, des anecdotes, des choses comme ça. jour et nuit, parce que des fois, je me réveillais, ah, j'ai une idée, il faut que je note, parce que demain matin, je ne m'en rappellerai plus. Enfin bon, voilà. Et ceux qui écrivent doivent... et puis, quand j'ai eu matière, j'ai commencé l'écriture. Oui.
Alors, on va parler aussi, on va vous retrouver dans quelques minutes, le temps d'une plage musicale. On va parler, et vous allez nous parler un peu, et nous donner le goût. Hein. Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour. En fait, c'est que ce sont des pages d'amour, ce sont des mots d'amour, ah oui. Des mots de consolation. Et puis, on parle bien sûr des blessés de la vie, parfois physiquement. Mais quand on vous lit, on perçoit au bout que de ces ombres, de ces ténèbres, de ces handicaps, au bout, il n'y a que la vie, il n'y a que la lumière. Oui. Donc, on parle beaucoup de lumière avec vous.
Oui, beaucoup de lumière avec des personnes aveugles. Qui ont éclairé ma vie.
Et votre
d'ailleurs, la préface, c'est une ancienne jeune.
On va en parler aussi voilà. De cette couverture. Hein. On ne peut pas parler de tous ces jeunes que vous côtoyés.
Même il y en a plein qui ne sont pas dans le livre.
Mais tout à fait. Mais on va parler peut-être, si vous le voulez bien. Elle est importante, c'est Victoria.
Oui.
Voilà. Et bien sûr, de la couverture du livre. Vous avez plein d'anecdotes. Pierre Guilbeault, ce livre est aux éditions Le Lys Bleu. Et on vous retrouve dans un instant. Et merci.
Alléluia, Christ est vivant, que ciel et terre exultent et chantent. Alléluia, Christ est vivant, pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Voici le jour de la résurrection.
Nathalie Cardon.
Suite de cette émission de Vivante Église du jour, au micro, vous découvrez Pierre Guilbeault qui nous propose, et vous pourrez, chers auditeurs, aussi vous procurer cet ouvrage. Dans ce livre, vous nous faites un petit peu voyager à travers aussi ces expériences de rencontres, d'amitié à Lourdes depuis 38 ans. 38 ans, de fidélité dans votre pratique aussi d'éducateur auprès de tous ces jeunes que vous avez pu, au cours de vos déplacements professionnels, de vos différents lieux, accompagner professionnellement et puis accueillir dans votre cœur des personnes fragiles, parfois par leur handicap et leur santé, mais ces personnes qui semblent aux yeux du monde parfois être rien, eh bien ces petits riens vous ont révélé aussi les secrets de la vie avec des leçons de vie. Si on devait résumer un peu votre expérience professionnelle, mais plus qu'une expérience professionnelle, c'est l'expérience de votre vie. C'est un éducateur que je rencontre au micro de Vivante Église, mais c'est une personne aussi qui a répondu dans ce métier à une vocation. Permettez-moi, c'était pas prévu ma question, mais au-delà de ce métier que vous avez exercé, toutes ces années d'éducateur, c'est une vocation.
Complètement. Complètement. C'est devenu très vite une vocation et en plus éclairé par justement cette expérience de bénévolat qui était un peu plus amateur évidemment que mon métier. Et oui, c'est vraiment une vocation.
Alors on va rentrer très vite hein, parce que ça passe vite le temps. Je me suis lancé le défi avec vous. Il y a une couverture qui a été réalisée avec votre livre. Vous serez vraiment grand hymne à l'amour. Un petit hommage à Isis, deux mots.
Oui, bah,
et
Isis.
Vous décrivez un peu cette couverture du livre.
Isis, c'est une amie et qui, quand elle avait 13 ans, m'avait fait plein de beaux dessins. Et donc, je me suis servi de ces dessins-là pour illustrer le livre parce que ça me paraissait logique que ce soit elle qui soit au cœur de ce livre.
Voilà. Elle se reconnaîtra.
Et c'est la grande sœur d'une enfant Neftis dont je parle dans le livre avec beaucoup de chaleur aussi.
Oui, il y a que
qui
de...
m'a beaucoup éclairé aussi.
Que de beaux témoignages, voilà. Mmh. Alors très vite, Victoria. Victoria est une adolescente de 13 ans qui ne parle pas quand en fait, vous commencez à l'approcher. En tant qu'éducateur, professionnellement.
Professionnellement, très professionnellement. Donc je suis instructeur de commotion et là j'ai décidé de m'occuper plus des enfants polyhandicapés. Je pense que Victoria d'ailleurs a été le déclic. Donc j'ai fait un projet que le chef de service a accepté avec beaucoup d'intelligence parce que je trouvais que faire traverser des carrefours aux gens c'était très bien, au contraire leur rendre une autonomie dans les déplacements, mais il n'y avait pas de raison qu'une personne polyhandicapée n'ait pas le droit non plus d'aller par exemple de sa chambre, tout bêtement, c'est pas très glorieux, mais de sa chambre au sanitaire par exemple, ou faire sa toilette. Et puis je voyais, en allant chercher d'autres enfants, je voyais Victoria qui était là, qui pleurnichait tout le temps et tout, donc je me suis intéressé à son histoire et j'ai appris que Victoria était née aux États-Unis parce que les parents étaient en déplacement. Et elle pesait 650 grammes. Et pour sa survie, en Amérique, ils étaient plus avancés qu'en France, ils ont tenté des opérations. Et sans doute, c'est une supposition, Victoria est devenue autiste à cause de ça, parce qu'elle a été opérée sans pouvoir être anesthésiée. Donc, c'était quand même pas... Et donc, Victoria ne parle pas. Elle est sauvage. Elle a confiance dans un éducateur et c'est à peu près tout, quoi. Donc moi, je vais entreprendre de la faire se déplacer toute seule.
Alors racontez-nous vite.
Voilà. Donc j'en parle à son éducateur qui dit oui, c'est une bonne idée. Donc je vais pour chercher Victoria. Victoria, évidemment, elle ne veut pas. Et donc je propose à l'éducateur de nous accompagner. Il accepte, c'était quelqu'un d'intelligent, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Et puis il aimait beaucoup Victoria, il faut dire que c'était une enfant absolument adorable. Et puis, donc il m'a accompagné pendant de longues semaines, avant que Victoria me connaisse, m'apprécie et m'autorise à être tout seul avec elle. Voilà. Et un jour... Pendant une séance, je la guidais à la voix, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour guider une personne, on la guide pour qu'elle puisse se déplacer toute seule. Alors là, c'était une grande victoire, parce que Victoria, elle avait peur d'avancer, hein, parce qu'une personne aveugle qui n'a jamais vu pense que devant elle, c'est un trou, c'est rien, quoi. Donc, toujours peur de tomber dans un abîme, en fait. Donc il faut une grande confiance, donc il faut tout un travail en amont pour préparer tout ça. Et donc Victoria commençait à vouloir faire ses déplacements et je lui disais, Victoria, tu vas vers ma voix. Et puis à l'époque, j'avais plus de vocabulaire et donc je faisais un flow continu et tout d'un coup j'entends une voix rauque qui sort de sa bouche. Et Victoria, tu viens vers ma voix. C'était un peu comme ça. Et là, je reste figé. Vous voyez, j'en ai encore le frisson quand j'en parle parce que c'était un moment mais extraordinaire. C'est la première fois de sa vie qu'un son sortait de sa bouche. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai eu raison de m'occuper d'elle, quoi. C'est une victoire, mais ça vaut tous les carrefours. Voilà, c'est comme si elle traversait la place de l'Étoile en autonomie avec une canne blanche, quoi. ce que j'ai fait dans ma formation, d'ailleurs. Mais
Victoria, c'est la grande victoire.
Mais ouais, Victoria, oui. C'est la grande victoire. Et après, elle s'est épanouie. Et quand j'ai dit ça à l'éducateur, il me dit, bah, c'est pas vrai. Et ben, je dis, bah, tu viens la prochaine fois, tu te caches, et puis pour pas 400. Et puis, bah, effectivement.
Alors, on va laisser, merci.
Et Victoria est devenue très, très bavarde. J'ai su ça il n'y a pas longtemps.
C'est intéressant.
Hein. C'est
elle
fantastique.
Elle ne parlait pas.
Non. Ouais,
voilà.
Donc, c'est un plus pour elle.
C'est un plus. Et puis, on voit bien que le miracle peut s'opérer. Et voilà. S'opère.
Voilà.
Alors, des miracles.
On peut déplacer les montagnes.
Ouais, et votre livre est parsemé en fait, de rencontres avec des personnes avec handicap, mais est parsemé de miracles. Hein. Et en fait, est parsemé de vie au cœur. On quitte finalement l'handicap, si terrible soit-il, les ténèbres, les épreuves, et s'en trouve, page après page, on passe des ténèbres à la lumière.
Oui.
S'il fallait faire court,
oui,
de l'ombre à la lumière. Alors, un peu d'ombre, mais beaucoup de lumière, même de la lumière, hein, j'ai presque envie de dire, avant d'écouter aussi. Et c'est ainsi que nous allons terminer aussi ce beau vivant Église. Hein, l'Église est bien vivante. Vous êtes un de ses membres de cette Église, Pierre Guilbeault. Très belle histoire, et des histoires vraies. Voilà, c'est celle de Sylvanie.
Ben oui.
Ah oui, on termine avec Sylvanie. Ça sera peut-être, certainement pour vous, beaucoup d'émotions. Ça l'est aussi pour le lecteur.
C'est toujours de l'émotion quand je parle de ce moment de ma vie, parce que c'est...
Alors on vous écoute. Hein.
Voilà.
Ouais. Grand moment.
Grand moment, oui, qui reste toujours présent. Et Sylvanie, c'est une jeune fille qui a une tumeur au cerveau, en fin de compte, qui quand elle grossit, lui compresse le nerf optique et donc elle perd la vue progressivement. Donc c'est une méchante maladie parce qu'elle s'aperçoit pas forcément qu'elle est en train de perdre la vue. C'est tellement progressif que mais ses éducateurs un jour me disent écoute Pierre, ça serait bien que tu t'occupes de Sylvanie. Alors, dans un premier temps, je dis, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je connaissais pas trop cet enfant, enfin cette jeune fille, je savais qu'elle avait une grande admiration pour moi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, je raconte aussi dans le livre que j'avais fondé une mini-ferme, on était passé à 30 millions d'amis, est-ce qu'elle m'avait vu à la télé? Bon, peut-être. Mais elle parlait de Pierre. Moi, je ne la connaissais pas. Et les éducateurs me disent, mais non, tu peux aller en confiance, c'est une personne extraordinaire, t'auras pas d'histoire. Moi, j'avais peur à cet âge-là. Bon, on est toujours prudent dans notre métier. Et je regrette pas, parce qu'effectivement, j'ai découvert une personne extraordinaire qui était toute tournée vers les autres alors qu'elle souffrait elle-même, quoi. Mais jamais, voilà. C'est ce que je dis aussi dans un bout de poème. Donc on travaille ensemble, on rigole bien, je la prends vraiment comme... j'essaye pas non plus, elle, de l'envoyer traverser des rues, parce que je sais que son état physique ne lui permettrait pas de... Parce que son l'aspect cognitif aussi est atteint par cette tumeur. Donc, mais elle est toute douceur et elle est superbe. Et puis un jour, donc elle revient pas à l'établissement et on nous annonce que la tumeur a vraiment pris des proportions importantes. Elle est hospitalisée à Angers et puis j'ai pas le courage d'aller la voir. Mais vraiment, dans ma tête, je dis maintenant que j'ai pas le courage, mais à l'époque, j'avais pas le temps. J'ai trop de choses à faire, j'avais pas le temps d'aller jusqu'à Angers. Angers, c'est à 100 et quelques kilomètres de Nantes, donc c'est quand même faisable. Et son éducatrice référente était un peu comme moi. Alors l'éducatrice Marie-Antoinette, elle est déficiente visuelle, donc elle pouvait pas y aller toute seule. Elle pouvait pas conduire. Et puis un jour, dans notre métier, on a ce qu'on appelle l'analyse de la pratique. Donc, on se réunit entre professionnels avec un psychologue ou une psychologue et on amène un cas qui nous tracasse ou qui nous a posé problème. Puis on essaye de voir ensemble comment voilà. Ça permet de, d'avancer et de déculpabiliser des situations. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi j'amène la situation de Sylvanie en disant, voilà, Sylvanie est à la fin de sa vie, elle souffre énormément. Et puis, voilà, elle ne meurt pas, quoi. Enfin, c'est pas juste quelque part, quoi. Et puis, donc, je raconte un petit peu la relation que je peux avoir avec Sylvanie, la psychologue. Elle me pose des questions. Et puis, puis elle me demande, bah, vous êtes allé la voir? Bah, je dis non, justement, non, on n'a pas le temps, avec notre emploi du temps. Enfin bon, Et puis, bon, elle me dit simplement, elle dit, mais vous savez, monsieur, Sylvanie vous attend pour mourir. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? On n'attend pas les gens pour mourir, quoi. Puis après, je me dis quand même, Sylvanie, c'est vrai qu'elle avait... on avait une super relation, c'était fort profond. Et puis, je descends, je vais voir son éducatrice. Et puis, je lui dis, voilà, Marie-Antoinette, voilà ce qu'on vient de me dire. Et elle me dit, elle me regarde et dit, bon, faut qu'on prenne notre courage à deux mains, on y va. On a pris une voiture... Et on est arrivé à l'hôpital à Angers. Et là, les parents, extraordinaires, ces parents, à l'image de leur fille, enfin, où leur fille était à l'image des parents. Et puis, ils nous accueillent et puis ils nous expliquent. Sylvanie ne peut même plus prendre de médicaments. On ne peut plus rien faire. Elle a des patchs pour essayer de soulager. Enfin, voilà. Et donc, ma collègue va au-dessus de son lit, puis lui parle un peu, et Sylvanie ne peut plus parler. Alors déjà, par la tumeur, elle avait une voix suraiguë, et là, c'est juste un petit filet de voix, mais on continue, sans parole, sans rien, quoi. C'est juste le filet de voix aigu qui sort, et tout d'un coup, elle lui dit, mais tu sais, je ne suis pas venue toute seule, il y a Pierre qui est avec moi. Et là, elle lui fait signe de... Tu dégages. Et je vais. Je suis resté 20 minutes au-dessus d'elle. Ouais. C'était un moment très pénible parce qu'elle a été défigurée par une tumeur. Et je ne dis pas tout dans le livre parce que c'est déjà assez fort comme ça. Et on a des grâces à ce moment-là parce que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas... était proche de la mort. Et donc là,
elle vous attendait.
Et voilà. Et là, pendant 20 minutes, il y a eu le filet de voix. Je me suis tu. Comme je dis, j'ai dû dire des mots dérisoires. Mais j'avais pas grand-chose à dire. J'avais qu'à l'écouter. Et comme je le dis, sans un mot, j'ai tout compris ce qu'elle voulait me dire. Quoi. C'était vraiment un cœur à cœur.
Et vous avez écrit un poème.
Oui.
Et nous allons, si vous le voulez bien, très vite, je vais vous demander de... Oui.
Non, juste pour dire que donc ça, c'était un vendredi. Et le poème, je l'ai écrit le dimanche. Et la fin du poème, je me suis arrêté pour dire, ça sera pour l'après. J'ai été mettre une lessive en route. Et je suis venu finir le poème, il était 16h30.
Lors de sa mort.
Oui.
Alors, je vais vous demander de lire... Un extrait, non.
C'est j'ai pas peur, beaucoup j'ai des... peur de... Oui.
Vous avez peur de vos émotions. Oui, puis... Les émotions débordent en ce moment, Pierre Guilbeault, depuis l'écriture du livre, ou ça va?
L'écriture du livre, oui, a réveillé beaucoup de choses, oui.
De bonnes choses,
hein? Des bonnes choses, oui. Oui, j'ai plusieurs comme ça qui sont partis et ce sont mes petits seins.
Alors, je ne vais pas lire donc tout le poème, mais un extrait peut-être de ce poème. Et je vais vous remercier d'avoir été présent du début à la fin dans ce magazine de Vivante Église.
Merci à vous.
Vous nous témoignez aussi que vous êtes une personne, belle personne engagée ici, de passage tous les ans depuis 38 ans à Lourdes, donc auprès...
Je reçois tellement que...
que vous revenez chaque année pour recevoir encore plus.
Je suis très égoïste.
On l'a bien compris. Alors, merci de votre engagement, merci de votre fidélité. L'Église, hein, le monde a besoin aussi de ces personnes qui vont dire oui. Vous terminez, donc ils vous offrent avec cette belle histoire que vous nous avez relatée de Sylvanie. Tu as puisé dans tes dernières forces pour me dire au revoir, pour me redire dans un filet de voix sans mots, je t'aime. Je suis restée devant toi, seule avec ma peine, juste pour te voir. Je t'ai dit des mots dérisoires, tu m'as donné ta main, alors je me suis tue, goûtant dans mon chagrin cet instant absolu où deux êtres acceptent de se recevoir. Puis vous terminez ce très beau poème. Moi aussi, elle vous dit, voilà, moi aussi je t'aime, Pierre. Adieu donc, enfant de mon cœur. Voilà, enfin, c'est un poème parmi tous les poèmes, parmi toutes les belles histoires que vous relatez. Chers auditeurs, si vous souhaitez lire vraiment des histoires vraies, parce qu'on parle de vraies aussi.
C'est pas du roman.
C'est pas du roman, des histoires avec des relations vraies. Il n'y a que la vérité. Eh bien, ce sont des miracles de la vie. Voilà, vous serez vraiment grand. Hymne à l'amour, découvreur de trésors. Pierre Guilbeault, merci aux éditions L'Ulysse Bleu. Merci.